grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Un bouton d'herpès, une plaque de psoriasis, une poussée d'eczéma, des boutons d'acné et voilà la qualité de vie gâchée, bien souvent l'estime de soi en berne. Au-delà de la douleur ou des démangeaisons, comment expliquer ces sentiments de honte, ces malaises psychologiques ou encore cette culpabilité alors qu'on n'y est pour rien? Nous verrons comment surmonter ces émotions désagréables et quels sont bien évidemment les traitements et les recherches en cours sur l'herpès, le psoriasis ou encore l'eczéma. Avec nous ce matin, le professeur en dermatologie Philippe Humbert et la dermatologue Jacqueline Le Goester. Avec nous également Isabelle Motreau, directrice du mensuel Cosette, notre complice ce matin. Racontez-nous si votre maladie de peau est un tabou, comment vivez-vous le regard des autres? N'hésitez pas à nous appeler si cela concerne votre enfant. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse, l'appli et le site de France Inter. Bonjour Baptiste Beaulieu, le médecin de Grand Bien Vous Fasse, tous les lundis en duplex de France Bleu à Toulouse. Au menu de votre chronique tout à l'heure, mon cher Baptiste.
Eh bien, on va parler corps et expérience de la solitude du corps.
À tout à l'heure, Baptiste Beaulieu. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Pour évoquer le tabou des maladies de peau, trois invités. Bonjour Philippe Humbert.
Oui, bonjour Ali.
Professeur de dermatologie, vous avez notamment écrit « Avez-vous un bon médecin ?» publié chez Fayard. Bonjour Jacqueline Le Goester.
Bonjour.
Vous êtes dermatologue à Paris, spécialisée dans l'immunologie. Vos recherches portent notamment sur le virus de l'herpès. Bonjour Isabelle Motreau.
Bonjour Ali.
Vous êtes directrice du mensuel Cosette et vous publiez ce mois-ci un papier consacré à l'herpès. Alors quand j'ai annoncé autour de moi le thème de cette émission, beaucoup de mines dégoûtées. Philippe Humbert, les maladies dermatologiques inspirent très souvent de la répulsion.
Oui, en effet, la peau est un des rares organes qui se voit. Et lorsque les maladies de peau sont affichantes sur les mains, sur le visage, effectivement, on craint la contagiosité, ça donne une mauvaise image sur votre santé elle-même, et donc c'est inquiétant, effectivement.
Jacqueline Le Goester.
Oui, bien évidemment, comme le dit mon cher confrère, il est évident qu'une maladie herpès qui se voit au niveau du visage, ou qui ne se voit pas dans la zone génitale, mais qui rend très difficile la relation sentimentale amoureuse, il convient de trouver des solutions peut-être autres que la chimio-prophylaxie utilisée très régulièrement.
Alors, selon une étude publiée en 2017 par la Société française de dermatologie, au moins 16 millions de Français souffrent d'au moins une maladie de peau. 33% sont des femmes, 28% des hommes et plus de 80% souffrent de deux maladies de peau. Philippe Humbert, vous confirmez?
Oui, tout dépend de ce qu'on appelle maladie de peau, mais dès lors qu'un névus ou un grain de beauté est considéré comme potentiellement suspect, il devient une maladie de peau. On sait que des maladies comme le psoriasis vont toucher 5%, 3 à 5% de la population, donc c'est très fréquent, et certaines formes d'eczéma sévère peuvent toucher jusqu'à 20% des nourrissons.
Alors l'éventail des maladies dermatologiques est très large, et il arrive qu'une maladie de peau soit un symptôme d'une autre maladie.
Tout à fait, tout à fait. Et en médecine générale, on apprend que l'herpès peut être concomitant d'une pneumonie, par exemple.
Ah bon ?
Oui, ou d'une fièvre typhoïde, ou d'une leptospirose, donc on peut aussi considérer ce bouton de fièvre comme le symptôme d'une autre maladie.
Alors selon la Société française de dermatologie, voici les principales affections cutanées qui affectent la population française par ordre décroissant: l'acné, l'eczéma ou dermatite atopique, le psoriasis, puis les maladies du cuir chevelu, les mycoses, et l'herpès arrive en 10e position. C'est bien ça, Jacqueline Le Goester?
Moi, je ne pense pas. Je dirais que l'herpès arriverait en première position.
Ah d'accord.
Parce que c'est extrêmement fréquent.
Dans vos consultations, en tout cas.
Je pense que l'herpès est tout de même une maladie extrêmement fréquente et très répandue, et que par chance, des scientifiques, des chimiothérapeutes, ont trouvé une thérapeutique classique de chimio-prophylaxie et chimiothérapeutique avec toute la chimiothérapie nécessaire à traiter un herpès au herpès provoqué par l'exposition au soleil, par un rhume, par une pneumonie, comme disait mon collègue, mais aussi par le soleil. Et puis l'herpès est tout de même très fréquent en termes de difficultés de la relation amoureuse, parce que l'herpès génital est tout de même une chose extrêmement fréquente et répandue, et bloquant la relation amoureuse et sentimentale et les grossesses éventuelles chez les jeunes femmes qui en sont atteintes.
On reviendra tout à l'heure largement sur l'herpès, mais sur les principales affections cutanées, Philippe Humbert, dans votre service de dermatologie.
Alors l'acné, par exemple, est une maladie pour la femme qui est affichante, puisqu'elle dénote l'existence d'un trouble hormonal sous-jacent également. Donc, quand on voit une dame qui a de l'acné à 25 ans, on peut imaginer qu'elle a peut-être même une hyperpilosité. Donc c'est des choses qui laissent penser que derrière cette maladie, il y a autre chose.
L'eczéma, le psoriasis.
L'eczéma va toucher la peau, mais le point de départ est très souvent le tube digestif.
Mais est-ce qu'on consulte beaucoup dans vos services sur l'eczéma, le psoriasis?
Oui, bien sûr. Alors peut-être que l'herpès est passé en 10e position, parce qu'on consulte peu pour l'herpès. Oui. Et puis les patients se traitent eux-mêmes, ils connaissent, ils appellent ça le bouton de fièvre. Et donc le reflet des consultations, c'est ce que vous avez dit, c'est l'acné, le psoriasis, l'eczéma.
Il y a beaucoup d'automédication concernant l'herpès, évidemment. On ne se consulte pas forcément pour un herpès, peut-être pour un herpès génital, Jacqueline Legoester. On consulte plus souvent,
oui,
peut-être.
Herpès génital, sûrement. On consulte un dermatologue. Mais comme le dit très bien mon confrère, les patients se soignent. Et ils ont un herpès du visage lié à l'exposition au soleil. Bon, ils vont chez le pharmacien, on leur donne une crème, et puis ça s'arrange tout seul. Mais malheureusement, quand un herpès est peu fréquent, bon, c'est pas un problème. Quand un herpès, c'est ce qu'on appelle récurrent, c'est-à-dire 8 à 10 fois par an, là, ça devient un problème. Et à ce moment-là, les patients vont consulter un service de dermato. Sinon, ils voient leur généraliste qui leur prescrit la chimiothérapie habituelle face à l'herpès récurrent. Tout se passe bien.
Philippe Humbert, avant d'explorer les tabous qui accompagnent les maladies dermatologiques, pouvez-vous nous présenter la peau? Quelles sont ses principales fonctions? D'abord, peut-être, évidemment, protéger l'organisme contre les agressions extérieures.
Exactement. C'est peut-être une des principales fonctions de la peau, c'est son rôle protecteur. Fonction mécanique, bien sûr, la peau accompagne les mouvements, elle doit avoir une élasticité. Une fonction protectrice à l'égard des rayons ultraviolets, grâce à la mélanine. Une fonction protectrice à l'égard des bactéries et des virus, avec des petits antibiotiques locaux qui se trouvent sur la peau, qu'on appelle des défensines. Une propriété de synthèse de la vitamine D. Il faut un quart d'heure d'exposition chaque jour pour avoir son stock de vitamine D. La vitamine D est fabriquée par la peau. Et puis une fonction hormonale. La peau fabrique des œstrogènes. La peau transforme des androgènes, des hormones mâles. Énormément de fonctions.
Et puis c'est le centre du toucher des sensations.
Exactement, et pour la sensorialité de la peau, c'est très important.
Pourquoi vous me regardez comme ça, Isabelle Moutreau de Cosette?
Parce que c'était exactement à ce à quoi je pensais, en fait.
Je lis dans vos pensées, Isabelle Moutreau. C'est aussi le signe d'un état de santé général. Quand on vous dit vous avez bonne mine, mauvaise mine, quand vous avez le teint jaunâtre, etc. C'est un bon indicateur, la peau, de l'état de santé?
Ah oui, c'est un bon indicateur. La plupart des maladies générales commence dans leur description par l'état du sujet. Bonne mine, teint terreux, teint terne. Et donc la peau est le reflet. Une anémie se verra sur la peau. Une jaunisse se verra sur la peau.
Jacqueline Legoester, vous confirmez,
je
évidemment.
Je partage totalement le point de vue de mon collègue. C'est une évidence. L'état cutané révèle instantanément l'état général de l'individu. S'il y a pathologie ou pas.
C'est bon, on a bonne mine avec Isabelle Motreau, c'est bon.
On a
tous bonne mine, bon, voilà.
À retour de vacances.
Allez, racontez-nous comment vous vivez une maladie de peau comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis, le vitiligo ou encore l'herpès. Comment avez-vous surmonté ces affections cutanées, souvent stigmatisantes et culpabilisantes? 01 45 24 7000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Claire Destacan, Clara Marlieu et Julia Macarez m'ont aidé à préparer cette émission. À la réalisation, Stéphanie Texier. Et on écoute un titre de 1969. Cette année-là, le général de Gaulle quittait le pouvoir. Shocking Blue, Vénus.
Oui, Cécile, c'est moi. Je sors de chez le médecin.
France Inter.
Mais il dit que c'est le psoriasis.
Grand bien vous fasse.
Le psoriasis.
10h19, avec la complicité du mensuel Cosette, on s'intéresse ce matin au tabou autour de certaines maladies de peau comme le psoriasis, l'eczéma, ou encore l'herpès, ou encore le vitiligo. Bienvenue Stéphanie.
Bonjour.
Vous êtes atteinte d'un vitiligo, c'est ça? Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est?
Alors le vitiligo, c'est une dépigmentation de la peau. Donc c'est une maladie auto-immune qui est très mal connue du public et qui, quand je bronze, en fait, j'ai des taches blanches, voilà. Mais je suis blanche l'hiver parce que ma peau est blanche et l'été, ben, toutes mes taches de dépigmentation apparaissent. Donc j'en ai sur le visage, les mains, les jambes. Et le plus difficile, c'est d'accepter le visage, en fait. Depuis 25 ans, mon visage, les taches augmentent. Et du coup, ben, quand il fait 40 degrés, moi, j'ai du fond de teint, de la poudre. Je me remaquille en permanence. Voilà.
Comment ça se soigne, le vitiligo, Stéphanie?
Alors, comme je suis un peu pugnace, j'ai cherché, ça fait 25 ans que je cherche, et depuis 10 ans, je me fais suivre auprès du professeur Passeron à Nice, qui est un grand spécialiste de cette maladie et qui... avec son bâton de pèlerin, essaye d'informer et fait des formations auprès des autres dermatologues qui connaissent pas bien le processus du vitiligo, puisque souvent on nous dit qu'il faut pas qu'on se mette fasse bronzer puisque ça se voit, mais en fait nous le soleil nous soigne et nous permet de nous repigmenter. Et d'ailleurs, là, en ce moment, j'ai un traitement pour le visage qui est nouveau et j'ai quelques parties du visage qui a bien pigmenté cet été, comme le nez. Donc, c'est vraiment des victoires extraordinaires. Il nous fait progresser et voilà. Mais bon, tout ça, c'est à nos frais. La crème, je la trouve qu'en Suisse, en Espagne. Elle n'est pas vendue en France, je l'achète en pharmacie en Europe, hein, et elle coûte très cher. Et pour aller à Nice, évidemment, à le voir une fois par an, bah, c'est de ma poche. Donc voilà.
Est-ce que c'est doux?
Je dirais que ça impacte aussi notre souffrance des gens du vitiligo de ne pas être reconnus.
Est-ce que c'est douloureux le vitiligo?
Pas du tout. Pas du tout, à part psychologiquement, c'est pas du tout douloureux.
Comment ça se traduit psychologiquement, Stéphanie, cette maladie de peau? Comment vous la vivez psychologiquement?
Par exemple, il y a 10 ans, quand ça commençait à apparaître sur mon visage, je voulais plus du tout sortir l'été.
Il y a un impact dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, dans votre vie intime?
Alors, dans ma vie intime, je ne pense pas. Ça se passe plutôt bien. Dans ma vie professionnelle, je suis à mon compte. Donc, j'ai un travail de paysagiste. Donc, j'ai un métier assez nature. Je m'assume. J'ai pas un patron qui m'a embauchée. Par contre, si j'étais au service dans la restauration, mes mains toutes tachées de blanc, je pense que ça serait un problème. Mais je suis pas sûre que j'aurais été embauchée comme serveuse, boulangère ou dans des métiers liés à l'hygiène. Malgré le fait que c'est tout à fait lisse, il n'y a pas de croûte, c'est juste ma peau décolorée. Parfois, je vois que les gens ne connaissent pas, donc se reculent.
Philippe Humbert, sur le témoignage de Stéphanie.
Oui, Stéphanie a dit beaucoup de choses. Le vitiligo est une maladie dont le point de départ est immunologique. Et ce qui se voit sur la peau n'est que la résultante d'une agression des cellules qui fabriquent le pigment par le système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui déclenche ça? Soit un terrain auto-immun, ces personnes peuvent avoir d'autres maladies auto-immunes, soit éventuellement un choc psychique qui peut déclencher cette maladie, ce désordre immunitaire. Et donc, les traitements aujourd'hui essaient de corriger ces perturbations immunologiques.
Stéphanie nous dit que les crèmes qu'elle achète coûtent cher. Et plus largement, Jacqueline Le Goester, tous les traitements dermatologiques comme les crèmes, les pommades, les lotions qui apaisent ceux qui souffrent coûtent cher.
Ils ne sont pas
forcément remboursés par la sécurité sociale.
Oui, mais si vous voulez, localement, effectivement, le vitiligo est très invalidant. Néanmoins, moi, toutes mes patientes qui relèvent de cette affection, bon, le maquillage, bien sûr, le maquillage, les crèmes haute protection solaire, en tout cas au niveau du visage, c'est ce que nous conseillons, bien évidemment. Alors, on tente, par l'approche stimulation de la base immunitaire de cette affection, la base immunologique de cette affection, de conseiller certaines vitamines, vitamines qui vont favoriser éventuellement la repigmentation, à savoir vitamine A et vitamine D, et éventuellement vitamine B, le nicotinamide. Mais, pour l'instant, on cherche au travail.
Stéphanie, on vous pose des questions sur votre vitiligo. Est-ce que pour vous, par exemple, si on vous regarde, est-ce qu'il faut faire comme si de rien n'était? Est-ce qu'il faut vous poser des questions directement? Comment vous aimeriez qu'on réagisse face à votre vitiligo?
Ah, bah, le plus naturellement possible. Et c'est les enfants qui sont extraordinaires avec le vitiligo, parce que ils vous regardent en souriant, puis ils vous demandent directement, mais qu'est-ce que tu as? Et en fait, pour moi, le mieux, c'est d'en parler. C'est pas de se taire, c'est d'en parler, d'échanger, et puis j'explique ce que j'ai, et du coup, bah, ça devient moins étrange pour les gens. Et souvent, j'ai la petite anecdote de Michael Jackson, qui, lui, a choisi de se faire blanchir pour cacher son vitiligo. Mais s'il avait été l'ambassadeur des gens qui ont du vitiligo, aujourd'hui, tout le monde le connaîtrait. Et puis, aussi pour dire qu'en Inde, les gens qui ont du vitiligo sont confondus avec les gens qui ont la lèpre, et c'est sûr que c'est un autre problème que celui que je vis en France.
Merci beaucoup, Stéphanie, pour votre témoignage. Philippe Humbert, celui qui scrute, il peut avoir peur, peur légitime, peur devant l'aspect inhabituel, inesthétique de la peau, peur d'être contaminé. N'oublions pas que la dermatologie est associée aux maladies vénériennes, qu'on appelait maladies honteuses. Et dans les grandes religions, celui qui est atteint d'une maladie de peau est atteint d'une faute devenue visible. Il est atteint d'une flétrissure physique, reflet d'éventuels dérèglements moraux. Il va donc devoir supporter la honte du regard. Il reste un peu de ça quand même dans notre rapport aux maladies dermatologiques.
Ah oui, vous avez tout à fait raison, et notamment dans certains pays, pour aller fréquemment au Maghreb, le vitiligo a une connotation qui est particulièrement désastreuse pour les personnes. Et une crainte de voir ce vitiligo s'étendre, et c'est pourquoi il faut rassurer et expliquer.
Isabelle Motreau de Cosette.
Oui, c'est ce qu'on fait subir à ceux qui ont fait une faute, effectivement, ou un tatouage ou un marquage au feu, enfin quelque chose qui marque, quoi. Et c'est ça qui est très troublant, effectivement.
Et puis il faut se remémorer l'exclusion dont faisaient l'objet les lépreux au Moyen-Âge.
Exactement. Oui, parce que un des signes de la lèpre, c'est justement des plaques blanches. Et donc on garde encore ce souvenir de ces plaques.
Dans ce cabinet de dermatologie, une consultation sur quatre est liée au psoriasis. Là, ce patient, par exemple, a vu ses premières plaques apparaître il y a 10 ans. Elles n'ont cessé depuis de s'étendre.
Même entraîner des saignements. Vous hydratez bien matin et soir?
Des plaques douloureuses parfois, 4%. Gênantes presque toujours.
Je pense que le psoriasis, le pire de tout, c'est vraiment le côté psychologique, le regard des autres, en fait. Où, bah, la plupart du temps, chemise longue, pantalon, été comme hiver, on se cache.
Extrait du 19-20 de France 3 en 2014. Alors, le psoriasis a longtemps été confondu avec la lèpre. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le psoriasis, Jacqueline Legoaster?
Le psoriasis, c'est toujours pareil. C'est le problème de la peau qui est un organe nécessaire à notre vie et à notre bien-être. Et qui est, c'est donc une anomalie neuro-immunitaire, le psoriasis. C'est une maladie avec une composante génétique importante aussi, malheureusement. Mais enfin, le professeur Humbert pourrait en parler parce qu'il en voit beaucoup.
Alors, tout d'abord, comment ça se manifeste? Par des plaques rouges et qui desquament. En fait, on a un emballement de la prolifération de la partie la plus superficielle de la peau qui s'appelle l'épiderme. Et donc, il va y avoir des plaques dans des territoires particuliers. Les coudes, les genoux, le bas des reins, le cuir chevelu. Mais également, il y a des atteintes des ongles qui sont particulièrement difficiles à vivre parce que ces ongles se décollent, ont une coloration jaunâtre et ils sont parfois ponctués. Et puis d'autres localisations, des plis. Et je narrais ce patient qui a divorcé, sa femme l'a quitté parce qu'il avait un psoriasis des plis et que sa femme pensait qu'il s'était contaminé auprès d'une autre femme alors qu'il s'agissait d'une maladie psoriasique qui se traite facilement.
Alors selon un sondage OpinionWay de 2015 pour l'association France Psoriasis, 40% des personnes interrogées préfèrent garder leur distance avec ceux qui en souffrent. Isabelle Motreau.
Oui, justement, est-ce que ça s'attrape ou est-ce que...
Non,
pas
alors,
du tout.
Ça n'est absolument pas contagieux.
C'est l'impression qu'on a
tout.
Immédiatement, exactement. Bien sûr. C'est ça qui est terrible.
Vous savez, il y a très très peu de maladies contagieuses en dermatologie. Très peu.
Lesquels ?
Alors, l'impétigo, par exemple, chez les enfants, est contagieux. C'est une affection streptococcique, donc un peu comme une angine, c'est la même bactérie. Certaines mycoses, mais en fait, la contagiosité n'est pas si grande que cela.
L'herpès, déjà.
Et l'herpès, bien évidemment, la virale, maladie infectieuse.
Bonjour Robert Aubert.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'association France Psoriasis. Vous confirmez ce sondage de 40% des personnes interrogées qui préfèrent garder leur distance avec ceux qui en souffrent.
Absolument. Les enquêtes sur ce type de comportement évolue, montre que les choses évoluent très 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 lentement. Oui. Mais vous parliez tout à l'heure de l'héritage historique qui a fait notre pathologie une maladie un peu tabou. Et ça c'est assorti d'une image sociale très dévalorisée.
Oui. Alors vous avez déclaré votre maladie, votre psoriasis, assez tardivement, à l'âge de 59 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça. J'avais un psoriasis palmoplantaire qui m'a empêché de marcher pendant à peu près un an et ne pas pouvoir marcher alors que on a l'habitude d'être très actif. Disons que ça bouleverse la vie, ça bouleverse la vie sociale, ça bouleverse la vie professionnelle, ça bouleverse beaucoup de choses.
Et donc voilà. Le psoriasis peut intervenir à n'importe quel âge. Le psoriasis peut intervenir à n'importe quel âge, donc.
Absolument, il y a des pics d'apparition, ça le professeur Humbert pourrait vous le confirmer, mais effectivement, ça, on peut naître avec.
Ah oui, voilà. on peut l'avoir dans l'enfance, mais en général c'est à l'âge adulte, aux environs de 20 ans, que la maladie se déclare.
Alors, qu'avez-vous ressenti quand votre psoriasis est apparu assez tardivement donc, et est-ce qu'il y a eu un retard diagnostique ?
Oh oui, mais comme ça arrive très fréquemment avant de il y a toute une errance diagnostique effectivement qui peut durer beaucoup, mais à partir du moment où on a posé un nom dessus, disons que c'est un petit peu rassurant parce qu'on sait qu'on a une piste. Néanmoins, j'ai eu un sentiment d'isolement très important parce que j'avais l'impression d'être seule à avoir cette pathologie. Et c'est parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une association et que je l'ai contactée, que je me suis rendu compte que j'étais loin d'être seule, puisque ça atteint, d'après les dernières enquêtes faites par la Société française de dermatologie, ça atteint à peu près 4%, plus de 4% de la population des plus de 15 ans, c'est-à-dire que c'est loin d'être une maladie rare. Le fait de se sentir moins seul, disons que ça donne l'envie de se battre.
Robert, voilà. Vous avez vécu le rejet social à cause de votre psoriasis ?
Alors, j'ai vécu le rejet social dans mon travail, pas tellement, mais c'était très sous-estimé. Mmh. On pensait que j'étais douillette d'une certaine façon. Et puis, on parlait tout à l'heure du regard de l'autre. Le regard de l'autre est difficile parce que il nous renvoie une image. C'est en miroir que ça se passe, à mon sens. C'est-à-dire que on lit au travers de son regard tout ce qu'il pense. Tout ce qu'il pense de désobligeant. Et en ce qui concerne le psoriasis, on le sait, circule bon nombre d'idées fausses contre lesquelles on a vraiment du mal à se battre. La contagiosité, le fait que c'est un problème d'hygiène, le fait que c'est un problème de santé mentale, ça on l'entend. Je tenais un stand à un forum samedi en région parisienne. Il y a une dame qui est passée et qui m'a dit « Mais le psoriasis, c'est dans la tête. » Alors je lui ai dit « Bah non, c'est sur la peau. » Elle me dit « Mais c'est un problème de santé mentale, et puis je sais de quoi je parle, je suis infirmière. »
Professeur Philippe Humbert, qui est professeur de dermatologie.
Oui, il faut effectivement refuser tous ces qualificatifs. Non, ce n'est pas dans la tête, c'est une vraie maladie auto-immune qui, comme beaucoup de maladies, ont des connotations psychiques avec éventuellement des dépressions. On sait qu'un malade sur deux qui a un psoriasis a une dépression, mais la dépression est une vraie maladie également, et ce n'est pas dans sa tête, absolument pas.
Isabelle Motreau.
Justement, c'est assez étonnant, on rapproche souvent les maladies dermatologiques de problèmes psychologiques, enfin beaucoup plus que pour les autres maladies. De quoi ça peut venir, ça ?
C'est vrai, parce que ça se voit, et c'est vrai que ça met les personnes mal à l'aise, mais pour autant, ils ne sont responsables de rien, et ce ne sont pas...
C'est ça, il y a un côté, on est responsable soi-même de déclencher la maladie. Ouais.
Robert, restez avec nous, vous êtes notre témoin fil rouge ce matin. Nous recevons Nicole au téléphone. Bonjour Nicole.
Allô.
Bonjour Nicole, bienvenue dans l'émission.
Bonjour. Bonjour monsieur.
Alors votre fille de 6 ans souffre d'un psoriasis, c'est ça?
Alors c'est ma petite fille. Mm-hmm. Ma petite fille de 6 ans a un psoriasis des ongles des pieds. Mm-hmm. C'est vraiment elle en souffre beaucoup parce que ses ongles sont entièrement déformés. Mm-hmm. Et donc elle a ça depuis qu'elle a 3 ans à peu près. L'année dernière, ma fille l'a emmenée voir un dermato. Et ce dermato lui a dit que c'était un psoriasis et que, ma foi, il y avait rien à faire. Tous les ans, je vais à la montagne, j'emmène mes 3 petits-enfants à la montagne, au-dessus d'Embrun. Et il y a une source qui s'appelle les sources de Fasi, qui se trouve entre Embrun et Mont-Dauphin. Mmh. Et là, beaucoup de gens y vont pour des maladies de peau. Eczéma, psoriasis, des boutons. Et les gens y vont, ils font tremper leurs pieds ou alors s'immergent complètement. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit, je vais emmener ma petite fille. Et ça fait 2 ans que j'emmène ma petite fille là-haut. Et chaque fois, on reste une semaine, donc tous les jours nous montons. Et pendant 1h30, elle fait tremper ses pieds, elle patauge. Et c'est vrai qu'au bout d'une semaine, ses ongles sont un petit peu plus jolis, disons. Mmh, sont un peu voilà. Plus propres, sont un peu plus nets.
Ce que vous disiez concernant
professeur Philippe Humbert.
Oui, un médecin ne doit pas dire il n'y a rien à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et le devoir d'un médecin est d'accompagner un malade, tant bien même qu'il n'y a pas de traitement connu éventuellement. Donc il y a toujours quelque chose à faire. Et dire à un enfant de 7 ans, il n'y a rien à faire, c'est absolument désespérant. Et j'ai malheureusement trop vu des jeunes filles qui voulaient en finir de leur vie parce qu'on leur avait dit qu'ils avaient une maladie incurable.
Robert, qu'avez-vous envie de dire à Nicole ?
Disons qu'elle met là le doigt sur un tabou important que souvent les malades véhiculent, c'est qu'il n'y a rien à faire, puisque c'est dans la tête, ça ne se soigne pas. Et beaucoup de gens pensent qu'effectivement il n'y a rien à faire. Cette idée est vraiment très ancrée et c'est quand même dommage. Et je pense que le professeur Philippe Humbert peut dire tout ce qu'il y a à faire.
Quel est le traitement contre le psoriasis, le traitement de première intention?
Alors, le traitement de première intention dépend bien entendu de la forme, de la localisation, mais il y a des traitements locaux qui fonctionnent dans la plupart des cas, avec des médicaments que l'on applique sur la peau et il faut bien faire son traitement. Des vrais médicaments, hein, je ne parle pas forcément seulement des produits hydratants, mais des médicaments. Dans les formes un petit peu plus sévères, il y a des médicaments par voie générale qui sont très bien supportés. Et puis dans les formes très sévères, parce qu'il y a des formes sévères, il y a des piqûres, des injections. Donc il y a une panoplie de traitements très vaste.
Merci beaucoup Nicole de nous avoir appelé. Allez, il est temps de retrouver la chronique du médecin de Grand Bien Vous Fasse, Baptiste Beaulieu.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse.
Ouais, apparemment je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Baptiste Beaulieu, en duplex de la bonne ville de Toulouse. Comment ça va?
Écoutez, ça va très bien. Je voulais vous parler d'un petit quelque chose. C'est tout simplement, avant de faire médecine, moi, j'avais les mêmes tabous que beaucoup par rapport au corps. Je veux dire, ces sécrétions, les crachats, les vomissements, les selles, les urines, évidemment. Mmh. Mais aussi le tabou de certaines maladies, comme si finalement le corps et l'expérience du corps, donc de la maladie, n'étaient pas les choses les plus partagées au monde. Je veux dire, il n'y a pas moi malade de ceci et cela d'un côté. Mmh. Et les autres, sains de corps et d'esprit. Ça n'existe pas, ça. Jamais. La normalité, c'est justement d'être emmerdé par des maladies, petites ou grosses, et par des troubles psychologiques qui nous font plus ou moins souffrir. Je veux dire, tout le monde a mal, quelque part, à un problème de peau, de ventre ou ailleurs, a peur de ceci ou cela. Quand vous prenez le métro à Lille, derrière cette apparence de normalité que nous affichons tous dans la rame, il y a ce qu'on ne dit pas, ce qu'on tait, ce qu'on garde pour nous. Telle fille à votre droite a de l'eczéma, tel garçon ne s'en sort plus avec ses pellicules, telle vieille dame a des troubles cognitifs, tel jeune homme a des difficultés à maintenir une érection, telle jeune fille se fait vomir parce que la société lui a toujours renvoyé une image négative de son corps. Regardons-nous dans le miroir. Aimons la personne qui s'y trouve. Soyons indulgents avec elle et ses petits soucis. Pardonnons-lui ses erreurs, ses petits ratés. Et rappelons-lui que quand elle nous fait défaut sur le plan mental ou somatique, elle n'est pas une exception contre la multitude des gens qui iraient bien. Non, elle est comme la multitude qui se cache derrière une apparence de normalité. Parce que ce qui est normal à Lille dans la vie, ce sont les hématomes, pas l'absence d'hématomes. Alors, cessons de mentir et cassons un peu tout ça. Tenez. Par exemple, moi, depuis mon installation en tant que jeune médecin généraliste, j'ai pris 10 kilogrammes.
Même on si dirait je... pas, ça se voit pas, ça se voit pas, ça se voit pas.
Je me suis remis au sport.
Surtout à la radio.
J'ai discipliné mon alimentation, mais je sais bien que j'ai ça au fond de moi. J'ai tendance à manger mes émotions. Eh bien, ça fait du bien de le dire. Et je sais que beaucoup de personnes font comme moi et seront contentes de l'entendre. Elles ne sont pas seules. D'ailleurs, on n'est jamais seul. Et c'est là qu'est le drame. On n'est jamais seul, mais on ne se le dit pas. Alors on y croit, cette solitude, et on en souffre chacun dans notre coin.
Vous prendrez bien un peu de chocolat, mon cher Baptiste? Je ne sais pas si c'est bon pour la peau. Est-ce que c'est une idée reçue, ça, Philippe Humbert?
Non, c'est pas une idée reçue. On a beaucoup pensé que les aliments n'avaient pas de rôle dans l'acné. Aujourd'hui, on sait que le chocolat est un facteur favorisant de l'acné.
Isabelle Motreau.
Je trouve que le docteur Beaulieu est un médicament à lui tout seul.
Merci Baptiste. Vous restez avec nous jusqu'à 11h. Vous intervenez quand vous voulez. Alors, dans un instant, on s'intéresse au tabou autour de l'herpès et de l'eczéma. Appelez-nous au 01 45 24 7000.
Je ne suis pas chez moi, chez moi. Je ne suis pas.
Moi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
10h41 et on s'intéresse ce matin au tabou autour de certaines maladies dermatologiques comme le psoriasis, l'eczéma ou l'herpès avec la complicité du mensuel Cosette. N'hésitez pas à intervenir, à témoigner au 01 45 24 7000. Baptiste Beaulieu, vous êtes resté avec nous depuis France Bleu à Toulouse et vous nous disiez hors antenne que vous étiez atteint d'un lupus cutané. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
C'est une sorte de plaques rouges qui apparaissent notamment lorsque je m'expose trop longtemps au soleil et qui apparaissent sur le visage en masque de loup, c'est comme ça. Et c'est une maladie qui est très affichante. Et moi, je l'ai eu très très tôt, j'étais déjà enfant. Mm-hmm. Et je me souviens des dermatologues qui, lorsque les traitements ne fonctionnaient pas, me disaient « mais c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, il y a des maladies plus graves ». Sauf que quand on a 13 ans et qu'on a envie de plaire aux autres, notamment de plaire aux filles, et ben on se retrouve avec des médecins qui ne comprennent pas que à 13 ans, le plus important, c'est d'avoir du gel dans les cheveux et un beau visage, quoi. Et ça, c'est le problème des maladies affichantes, c'est parfois le relativisme auquel on est confronté de la part du personnel soignant.
Quel a été l'impact psychologique avec ce lupus cutané?
Ah ben, pendant très longtemps, je me souviens, adolescent, en période de crise, je mettais des draps sur les miroirs pour pas avoir à me croiser quand je prenais ma douche dans la salle de bain, par exemple.
À ce point-là, Philippe Humbert.
Ah oui, c'est ce que dit Dr Beaulieu est tout à fait vrai. On ne doit pas sous-estimer même une petite plaque sur la peau parce que ça peut avoir des conséquences très importantes sur le plan moral.
Docteur Jacqueline Legoester.
Oui, je partage totalement le point de vue d'Humbert. Il est évident qu'un lupus, ça se soigne maintenant, ça se prend en compte d'une manière remarquable. Et hélas, peut-être il y a quelques années, on ne savait pas aussi bien le prendre en compte.
Ça se soigne comment d'ailleurs, Baptiste Beaulieu ?
A priori...
Allez-y.
On prend des médicaments, éventuellement, à l'époque, surtout, le premier traitement, évidemment, c'est l'éviction. On essaye d'éviter les rayons du soleil au maximum et de bien se protéger quand on est exposé, quoi.
Alors, c'est vrai que dans la déontologie médicale, on dit qu'il faut rassurer le patient. Mais dire « c'est rien, c'est pas grave », ce n'est pas rassurer le patient. Ça peut même parfois l'inquiéter. Le rassurer, c'est lui dire l'évolution de la maladie, qu'il va pouvoir guérir, qu'il va... Voilà, c'est ça, rassurer un patient. C'est pas dire que tout va bien.
L'herpès, c'est une maladie dermatologique, c'est-à-dire que c'est un virus, je crois que c'est une maladie virale. Très souvent, ça se manifeste sur les lèvres. C'est-à-dire on a une espèce de bouton qui est appelé vulgairement bouton de fièvre. Sinon, j'ai entendu parler aussi d'un herpès qui serait sexuel. Alors là, je ne sais pas du tout ce que c'est parce que j'en ai jamais eu. Par contre, des boutons de fièvre, j'en ai eu souvent. Voilà.
Extrait d'un reportage d'Antenne 2 en 1983. Isabelle Moutreau, vous consacrez un papier à l'herpès ce mois-ci. Quelques chiffres
France. Ça semble un petit peu curieux de parler de l'herpès mais en fait pas du tout, parce qu'il y a 2 personnes sur 3 en France qui en sont atteintes. Alors, faut savoir aussi que tout le monde ne développe pas les symptômes. Il y a beaucoup de gens qui sont porteurs sains, mais c'est quand même quelque chose qui touche énormément de monde et dont on ne parle pas du tout, parce que l'herpès, comme vous disiez, on dit « ah, j'ai un bouton de fièvre » et puis ça passe comme ça, mais quand même c'est très gênant, il y a des gens qui sont c'est très invalidant sur le visage, et puis comme on disait tout à l'heure, quand il s'agit d'un herpès génital, c'est ça fout en l'air la vie amoureuse, quoi, disons-le.
C'est quoi exactement l'herpès, docteur Jacqueline Legoester?
Alors, l'herpès est une... Il y a 2 sortes d'herpès qui ont été isolées par les fondamentalistes, les virologues fondamentalistes. Il y a l'herpès 1, qui est l'herpès buccal, orobuccal, et l'herpès 2, qui est l'herpès génital. Et enfin, la base de notre travail fondamental avec l'Institut Pasteur et l'Institut Jacques Monod a été de rapporter cette herpès 1 et herpès 2, buccal ou génital, à l'herpès 3, qui est la varicelle, la maladie varicelle que nous avons tous rencontré quand on était enfant, le virus de la varicelle, et ce virus de la varicelle est un herpès 3. Tout le travail de notre équipe depuis, je dirais, plus de 20 ans, a été de rapprocher la relation, de faire la relation entre virus varicelle herpès 3 avec le virus herpès 1 et herpès 2. Et donc, quand le vaccin varicelle est arrivé en France, fin 2004, début 2005, avec le professeur Anizeni et le professeur Frédéric Tanji de l'Institut Pasteur, nous avons décidé de démarrer le vaccin varicelle contre les patients atteints d'herpès récurrent. Parce que on parle de l'herpès, tout le monde, tous ceux qui vont au soleil ou qui ont été fatigués ou ceci ou cela vont faire un petit bouton d'herpès du visage, banal, ça disparaît rapidement, etc. Le seul ennui, c'est les herpès récurrents.
C'est-à-dire récurrent au bout de combien de temps ?
Les herpès récurrents, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire un herpès tous les 3 semaines.
Ah ouais.
La maladie herpès récurrent, c'est la fréquence de cette maladie herpès, aussi bien au niveau du corps, visage, etc., qu'au niveau génital. Les jeunes femmes qui ont 28, 30, 35 ans et qui veulent avoir un bébé, si elles ont un herpès génital récurrent tous les 3 semaines, comment faire son bébé ? Parce que la gêne amoureuse est indiscutable. Donc, il est évident que l'herpès récurrent devait mériter d'être pris en compte par le vaccin varicelle, ce que nous avons démarré en 2005 avec l'Institut Pasteur et l'Institut Jacques Monod.
Et où est-ce qu'on en est alors ? aujourd'hui, en 2019.
Les résultats sont absolument spectaculaires. Il est évident que donc le vaccin varicelle que nous avons démarré dès 2005 au niveau de nos patients porteurs, au départ on a démarré sur une cinquantaine de personnes, et à notre immense étonnement, le vaccin varicelle protégeait contre les herpès récurrents 1 et 2.
Isabelle Motreau.
Oui, je voulais juste signaler qu'en plus, vous parliez des jeunes femmes qui veulent faire un bébé.
Oui.
Imaginons même qu'elles y arrivent. Il y a des problèmes de contamination à l'accouchement. Donc c'est terrible, quoi.
Oui, si ce n'est que je n'ai jamais rencontré ce cas-là, en ce sens que les jeunes femmes qui sont herpès récurrents et qui se trouvent enceintes, bien entendu, prennent la chimiothérapie antivirale herpès conseillée par le gynécologue ou le généraliste ou le dermatologue, qui sont les traitements classiques, acyclovir, valacyclovir, ou Zovirax, Elitrex, enfin, acyclovir et valacyclovir, vous protègent. Donc c'est pour ça que la recherche au niveau vaccinal a été... cette recherche que nous avons menée et qui porte ses fruits et qui a été absolument efficace et spectaculaire à notre immense étonnement.
Que font les laboratoires pharmaceutiques alors?
Alors justement, les deux laboratoires qui fabriquent la chimiothérapie antivirale sont Sanofi Pasteur et GlaxoSmithKline, et ce sont les mêmes qui fabrique le vaccin Varivax ou Varilrix. Or, il est évident que les bénéfices considérables des laboratoires en vendant acyclovir et valacyclovir à longueur d'année pour les patients herpès récurrents, je précise, herpès récurrents, c'est-à-dire un herpès tous les trois semaines ou tous les mois, donc tous les patients qui relevaient de cette thérapeutique lourde et gênante étaient guéris, bien évidemment, mais ça remettait toujours ça, année après année.
Quel est l'impact psychologique des poussées d'herpès labiale et génitale?
L'impact psychologique est toujours le même, à savoir, bon, bah, c'est pas agréable, quoi. Voilà, c'est déplaisant.
Sur l'herpès génital, il y a un sentiment de honte tout de même, Philippe Imbert.
Oui, d'autant plus que la personne qui est atteinte d'un herpès génital peut être contaminante en dehors même des poussées.
Bien sûr.
Donc ça pose vraiment des problèmes.
Pourquoi oui et non, Jacqueline Legoaster?
Non, parce que si vous voulez, un herpès génital, la jeune femme ou l'homme qui en est atteint se fait prendre en charge. Donc il est porteur, il sait qu'il est contaminant éventuellement, mais bon...
Isabelle Motreau.
Je voulais juste revenir sur le point à propos des laboratoires. Parce que je sais pas si on a bien compris, parce que c'est incompréhensible, enfin c'est tellement terrible que c'est incompréhensible, mais les laboratoires font obstacle au fait que ce vaccin varicelle pourrait être utilisé, parce qu'ils ont envie de continuer à vendre et à revendre et à survendre leurs médicaments à des gens qui ne seront pas guéris.
C'est l'immense problème de ces deux laboratoires qui fabriquent la chimiothérapie antivirale acyclovir, valacyclovir, et qui aussi fabrique le vaccin varicelle.
Oui, sauf que si c'est le vaccin, c'est une
mais
fois, alors que
il est évident que le vaccin, s'il protège à vie, automatiquement le top 10 des ventes des chimiothérapies antivirales s'effondre. Donc Sanofi et GlaxoSmithKline ont tout de suite été intéressés par notre travail, nous les avons mis au courant à travers l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur lui-même est preneur. Sanofi Pasteur, c'est Institut Pasteur.
Et ce vaccin pourrait alléger la souffrance psychologique, évidemment, de ceux qui souffrent de l'herpès récurrent. On se retrouve dans quelques instants, on s'intéresse à l'eczéma, 01 45 24 7000.
what makes you blind. I hope to find who I believe in. Get back in line, I can't deny myself. Show me the feeling. Oh, you got me wrong. If you don't belong, live in the trouble. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I lived a lie, love is the crime. It's you I believe in. No need to blame myself, no need to die. I'm only human. I'm done, you got to put me on. I know when you come along. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. You are the problem. I try to help myself. You are the one, do all the talking. You got me wrong, I caught you falling. I hear you calling. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself. You got the key, break out the prison. Oh, I hope to never see time passing. Don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem.
Michael Kiwanuka interprétait You Ain't the Problem.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et on s'intéresse à quelques tabous autour de quelques maladies de peau, comme le psoriasis, l'herpès ou encore l'eczéma, professeur Humbert. C'est quoi exactement l'eczéma atopique? C'est une maladie chronique inflammatoire de peau, c'est ça?
Oui.
Ça se traduit comment?
Alors, très brièvement, il y a deux grands types d'eczéma. L'eczéma de contact, vous êtes allergique à la boucle d'oreille, vous faites un eczéma sous cette boucle d'oreille. Et puis le deuxième grand type d'eczéma, c'est ce qu'on appelle l'eczéma atopique, qui a une connotation génétique au départ, avec une transmission par les parents. Ce sont des vastes plaques qui démangent, faites de rougeurs, de petites vésicules. Ça gratte, ça oblige à se réveiller la nuit. C'est épouvantable, une qualité de vie déplorable, et ça doit être pris en charge localement et de façon systémique également.
Olivier nous dit, je sors d'une séquence de 10 ans d'enfer personnel, oui. Atteinte d'une dermatite atopique sévère, c'est-à-dire d'eczéma. J'avoue que j'ai beaucoup souffert, mais cette horrible galère physique et psychologique est terminée. J'avais atteint des sommets en démangeaison. Ma dermatologue a trouvé une solution, l'immunothérapie. Philippe Humbert.
Oui, ce sont les derniers traitements, l'immunothérapie. Cette maladie est tellement sévère qu'on peut utiliser des immunosuppresseurs et puis aujourd'hui une nouvelle biothérapie. Mais avant tout cela, il y a aussi s'intéresser aux causes. Et personnellement, je m'intéresse beaucoup aux causes des maladies. Dans l'eczéma atopique, on sait que c'est le rôle des aliments qui est primordial. C'est pas facile à diagnostiquer, ce n'est pas facile à traiter. Mais lorsque vous arrivez à détecter, supprimer l'aliment en cause, le malade guérit de son eczéma.
Beaucoup de patients que vous avez reçus qui souffraient de malaise psychologique, voire plus.
Ah, forcément, vous savez, quand vous avez un sommeil qui est perturbé avec des réveils toutes les demi-heures la nuit, que de surcroît, lorsque vous êtes un nourrisson, vous avez des coliques mal au ventre, des régurgitations, vous pouvez imaginer le retentissement psychique de cette maladie.
Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Bienvenue, on termine avec vous. Quel a été l'impact psychologique de vos problèmes d'eczéma?
Moi, la difficulté, c'est qu'en fait, je suis enseignant et je maîtrise pas les moments auxquels ces éruptions apparaissent, quoi. Donc, il m'est arrivé plusieurs fois que des élèves me signalent, monsieur, vous avez des plaques, vous avez des boutons, et au début, c'était extrêmement gênant parce que ça me coupait un peu. Enfin, je savais pas trop comment réagir. Alors maintenant, je dis que je fais des allergies, des choses comme ça. Voilà, ça calme un peu, mais c'est vrai que c'est assez perturbant.
Philippe Humbert.
Oui, c'est vraiment terrible. Et en plus, lorsque les plaques sont étendues, si vous utilisez un traitement local, imaginez le temps que vous passez dans la salle de bain le matin pour appliquer le traitement sur l'ensemble du corps. Aujourd'hui, c'est une des maladies qui se traite certainement le moins bien. On a des espoirs avec les nouvelles immunothérapies. Il faut toujours continuer à travailler sur cette maladie.
Robert, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous nos auditeurs qui souffrent de maladies de peau, pas forcément de psoriasis ?
C'était déjà un fardeau, et que les tabous des maladies affichantes
le renforce, ce fardeau, lui donne une dimension sociale qui justifie bien des discriminations. Et il me semble que vous, les médias, vous pouvez nous aider à modifier cette représentation culturelle en renforçant l'information comme vous le faites ce matin. Je vous remercie.
Merci, on y a modestement contribué ce matin. Merci beaucoup Robert, merci Philippe, merci à tous d'être venus, professeur Philippe Ambert, docteur Jacqueline Legoester et merci Isabelle Motreau de Cosette en vente, en kiosque en ce moment. Vous pouvez podcaster ou faire podcaster cette émission aux personnes qui souffrent de maladies de peau sur l'appli et le site de France Inter. Demain, on se demande dans quel cas il est possible de se passer d'antidépresseurs. N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000 et dès maintenant sur l'appli et le site de France Inter. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Florent Bujon.